Des sauts de création.
Chapitre 71. Le budget des radios associatives.
Je prends toujours la comparaison suivante. Si au lieu d'avoir fait une radio, on avait fait un centre culturel ou une maison de jeunes, on aurait probablement des permanents et on aurait probablement des budgets pour avoir des locaux, pour fonctionner, etc., qui représentent plusieurs millions.
Les radios sociales, culturelles, associatives qui ont démarré tout l'univers de la radio il y a 15 ou 20 ans, il n'y en a plus, ou pratiquement plus, ils crèvent. Il subsiste, entre guillemets, des radios indépendantes qui sont probablement les plus respectueuses de la loi et les plus respectueuses de l'auditeur et qui, avec des moyens ridicules, c'est-à-dire des bouts de ficelle, c'est-à-dire des budgets de quelques dizaines ou quelques centaines de milliers de francs par an, excessivement rarement du personnel, arrivent à faire de la radio. Les derniers sondages donnent encore entre 10 et 14% de part d'audience aux radios entre guillemets indépendantes locales qui ne sont pas des réseaux ni l'RTBF. C'est énorme par rapport au budget qui est investi. Et on peut mettre ça en miroir des nombreuses heures et des nuits que beaucoup d'entre vous ici ont passé à leur radio.
J'ai fait une petite étude il y a quelques années, là, c'était à l'époque avant le décret de 97. Et j'ai d'ailleurs envoyé sur cet aspect-là les résultats de mon étude à Mme Van Collings, en faisant remarquer effectivement, moi j'étais très étonné dans les budgets de radio, c'est que Radio Air Libre, qui a un budget 400 000 francs, quelque chose comme ça, un peu plus, un peu moins, ça dépend des années, par an, budget total, c'est encore un gros budget par rapport à d'autres, quoi. Donc il y a des radios qui ont, des petites alors, hein, des toutes petites, qui ont 10, 20 000 francs de budget annuel, et qui font de la radio chaque semaine avec ça. Hein. C'est évidemment uniquement possible dans un cadre associatif. Mais les grosses dépenses des radios sont quoi? Bah, le loyer, s'il y a un loyer à payer, et la SABAM. Ça, ce sont les deux gros postes qui bouffent. Et éventuellement l'électricité. Mais les deux gros morceaux dans le budget, c'est la SABAM et le loyer.
L'achat l'investissement dans l'équipement, dans le matériel.
On travaille souvent avec du matériel de ménage. Ce qui a un avantage, c'est qu'il n'est pas très cher. Et un autre avantage, c'est que tout le monde sait l'utiliser. Hein? Parfois, on se paye une fois une bonne table de mixage, etc., ou de bons micros. Mais ça, c'est quand on a un petit extra, quoi. Quand on a une rentrée supplémentaire. Moi, j'ai connu des radios où, pour se chauffer l'hiver, on fait la corvée bois deux fois par an. Et on travaille dans le garage d'un des animateurs. Bon, ça peut fonctionner. Je ne dis pas que ce sont les conditions idéales, mais ce que je trouve surtout dommage, c'est si une radio met la clé sous le paillasson parce qu'il lui manque 10 000 francs à son budget. Ça, je trouve vraiment dommage.
Alors, puisque tu es trésorier, que tu es le surveillant des finances de Panique depuis 2 ans, à peu près, explique-nous un peu à quoi ça ressemble un budget annuel d'une radio comme Panique.
Ben le budget de la radio, c'est surtout un... C'est pas vraiment un budget chiffré, c'est pas un budget avec des sous sur un compte en banque, c'est plus une gestion, mais là c'est vraiment, au sens primaire du terme, une gestion de ressources humaines, parce que c'est quoi au fait cette radio? C'est des gens qui investissent leur temps. C'est un technicien qui est très motivé et qui essaye de trouver des bons plans en allant récupérer des amplis dans les poubelles, en les réparant, en les installant ici. C'est un informaticien qui fait de la récup d'ordinateurs et qui les installe. Et c'est énormément de personnes qui, dans ce sens-là. Donc, au fait, c'est toujours, on est constamment un peu en gestion de crise, on est toujours un peu sur un fil, à la limite, à une sorte de frontière entre une situation qui, enfin très 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 critique. Pourquoi ? Parce que bon, c'est vrai qu'il y a aussi des factures qui arrivent, et on a vraiment le minimum pour pouvoir faire face à toutes ces dépenses. Mais d'un autre côté, on a beaucoup de chance d'avoir des gens qui s'investissent et qui apportent des choses qui quelque part ont une valeur considérable, comme du temps et vraiment de, ils ont fait aussi quelque part de leur hobby une sorte de passion, et c'est cette passion qui communique à la radio, et ça je trouve ça très beau aussi. Maintenant, c'est sûr, et ça j'espère que dans le futur on tendra vers ça, essayer d'avoir des subsides de fonctionnement. Comme ça, ça pourra peut-être nous alléger de certaines parties auxquelles on doit faire face aujourd'hui, mais pas avec des moyens financiers, mais avec des moyens humains.
Alors, ces factures d'électricité, de gaz, d'appareils pour l'équipement, de la radio, je ne sais pas quoi, quand elles arrivent, c'est avec quoi qu'on les paye ?
C'est avec des sous, bien sûr, je veux dire.
Bon, et d'où viennent les sous ?
En fait, ça se passe pratiquement comme dans toutes les ASBL, puisque nous sommes une ASBL. Donc, on a des membres, on a des animateurs. Et alors, ça c'est aussi un point de vue peut-être à débattre. Les animateurs, donc, doivent payer pour pouvoir faire leur émission.
Combien ?
Ça tourne autour entre 1000 et 3000 francs, disons, pour les petites émissions par an. Et puis les émissions un peu plus importantes, ça varie en fonction du nombre d'heures. Mais je crois que l'émission qui est l'Afrique en un déclic, qui a le plus nombre d'heures, tourne autour d'une dizaine de mille francs par mois. Maintenant, bon, ça c'est uniquement les cotisations d'animateurs. Puis alors, il y a les cotisations de membres. Pour être membre, c'est 1200 francs par an. Et on a environ une trentaine de membres. Et mis à part ça, une source de revenus qui est quand même assez considérable. Mais de nouveau, c'est une source de revenus enfin, j'expliquerai peut-être après. C'est les soirées. Les soirées paniques. Il y en a en moyenne deux par an. Mais c'est des soirées qui font de nouveau appel à tous les bénévoles, à toute la main-d'œuvre gratuite, et c'est de nouveau énormément de temps qui est investi pour essayer, au fait, au bout du compte, d'avoir un petit bénéfice d'une trentaine ou d'une quarantaine de mille francs quand ça se passe bien, parce que des fois, bon, c'est un risque aussi. Donc on est constamment obligé d'essayer de trouver des petits moyens pour payer, etc. Ou alors on pense aussi des fois à des... Comme dans les ASBL, des fabrications de t-shirts qu'on vend à nos membres, ou alors des choses comme ça. Ce qui ne s'est pas fait, c'était juste un projet qu'on avait. Mais la solution, disons l'idéal, ça serait qu'on aurait un subside de fonctionnement qui nous permettrait de payer nos factures. Et alors, pour en revenir aussi aux factures, il ne faut pas oublier que pour l'instant, donc, on ne paye pas de loyer. Donc, ce qui est aussi formidable, je veux dire, mais imaginez-vous un jour, puisque bon, ici, le sort des casernes, c'est quel lapsus, le sort des casernes est un peu, il y a un gros point d'interrogation, on ne sait pas, donc peut-être qu'un jour on devra payer un loyer, et à ce moment-là, je ne sais pas vraiment comment on va faire face à toutes ces dépenses, quoi. Maintenant, ça aussi, il faut peut-être le dire, on a deux permanents qui travaillent ici à mi-temps et qui sont rémunérés. Mais je veux dire, les subsides qu'on reçoit à ce niveau-là, c'est vraiment des subsides pour payer les cotisations sociales et le salaire de ces deux mi-temps. Mais de nouveau, ce n'est pas un subside qui nous permet de faire face à nos dépenses, au chauffage, au téléphone et aux frais d'entretien des appareils, quand il y en a. Etc., etc.
Explique-nous, Carmeno, lorsqu'on fait sa comptabilité à panique, on arrive à la fin de l'année avec un chiffre d'affaires d'environ 400, 500, 600 000 francs, si on ne tient pas compte des rémunérations du salarié ou des deux salariés à mi-temps. Et si on calcule un budget, ce qui serait un budget réel en conditions réelles pour une radio comme Panique, en fait, c'est 14 millions.
C'est-à-dire 350 000 euros.
Oui, c'est ça. C'est justement, dans ta comptabilité,
Si tu veux vraiment savoir, si tu regardes tout ce qui est vraiment nécessaire, tu devrais payer tous les gens qui font leurs prestations. Donc c'est vrai, c'est ce raisonnement-là que j'ai tenu, bien sûr. Hein. C'est, voilà, on est une radio qui payons tout. On doit payer la prestation des bénévoles. Donc, on doit payer les CD qui passent, acheter les CD qui passent. On doit, l'ordinateur qu'on l'a reçu, on doit l'acheter. Donc, on n'a pas de technicien qui répare sans cesse les appareils, on doit envoyer ça en réparation à l'usine, où on a un service technique à payer, à rémunérer. Donc, si tu comptabilises ça, si, pour faire tourner la machine en matière économique, oui, ben voilà, j'arrive à ce chiffre-là. Bon, c'est une première approximation, je t'avoue que c'est pas c'est pas un calcul méticuleux que j'ai fait, mais c'est une approximation, on arrive à cette somme-là, ce qui n'est pas extraordinaire du tout. Quand tu imagines le travail fourni par une radio qui est la diffusion de 12 heures par jour d'émissions pendant 365 jours, c'est rien du tout. C'est normal. Donc là, si tu veux, en termes économiques, oui, c'est ça l'importance. C'est là justement, on peut réfléchir aussi de la même manière au niveau de l'État, si tu veux. Donc effectivement, au niveau économique, le secteur associatif, surtout le secteur associatif comme les radios, n'ont aucun poids économique. Mais si on, je sais pas, si normalement, si on réfléchit justement comme quoi ces radios assurent un service public d'intérêt public et qui devrait être subventionné par l'État, que l'État devrait être client, eh ben l'État fait une économie de autant de millions, de 14 millions pour Radio Panique. Par rapport, moi, les subventions qu'ils donnent pour le fonds d'aide. L'État fait économie de 14 billions parce qu'elle ne subventionne pas ce genre de structure. On peut réfléchir aussi comme ça.
Mergimi, métissage, Moa Crea Sloa, Hut Moment, The Monk's Dream. Les gens de panique.
Les mots ont des oreilles.
Graziella Van Loo.
Mais est-ce que tu peux m'expliquer un peu ton parcours radiophonique? Par quoi ça a commencé?
Ouais. Ça a commencé par simplement une écoute dans ma cuisine de la radio. C'est France Inter, je sais pas si tu connais un peu.
Ouais.
Alors il y a une émission comme ça de Daniel Mermet, là-bas si j'y suis.
Mm-hmm.
Franchement, que je trouve génial, quoi. Oui, il y a sûrement des choses à dire, mais je veux dire la démarche, tu vois, d'un gars comme ça qui donne la parole, qui voyage pour donner la parole aux gens et tout ça, je trouve ça génial. Enfin, il est engagé, quoi. Puis ça m'a fait trotter là dans la petite tête et je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas faire ça ici? Je veux dire, moi, je peux pas voyager, je peux pas aller. Et pourquoi pas voyager dans Bruxelles à travers les gens? Ça a commencé comme ça, tout bêtement. Et puis évidemment, il fallait se procurer du matériel pour partir en reportage en Bruxelles. Il fallait aussi un minimum savoir la technique, parce que sinon, t'es largué. Et voilà, c'est parti. J'ai suivi une formation à Radio Antipode pour savoir comment fonctionnait une régie. Et j'ai envoyé des projets écrits aux radios associatives. Quoi.
Mm-hmm.
Et voilà.
Et qu'est-ce qu'il y a eu comme répondant?
Bah, ça a été positif, puisqu'à Panique, on a accepté, à Campus, on a accepté. Voilà. Il n'y a pas tellement longtemps, en fait, que je sais que c'est vraiment un truc qui me passionne. C'est pas un travail pour moi, quoi.
Mm-hmm.
C'est vraiment aller à la rencontre de l'autre avec le micro. Enfin, je découvre le monde, mais à travers ce micro et à travers ma démarche de voyager à travers les gens, il y a aussi d'autres qui en profitent, quoi. Et ça, je trouve génial.
En fait, est-ce que tes émissions, c'est vraiment des émissions de documentaire. En fait, tu vas à la rencontre des gens,
mm-hmm.
tu fais un documentaire, tu fais un montage et puis tu les passes. Donc,
il est très très minime, quoi. Je fais pas du montage en prenant le début. Je veux dire, c'est quelqu'un qui se présente à la fin, bah, il s'est présenté à la fin et je fais un montage vraiment.
Ça reste assez brut.
Ouais.
Et tu passes sur antenne en direct en même temps?
Ouais. C'est-à-dire, il y a le reportage qui se fait comme ça chez les gens ou bien dans un café. Ou... Après ça, il y a l'écoute à la maison pour voir. Par exemple, si la personne se répète à chaque bout de phrase le même mot, je vais essayer d'un petit peu l'enlever pour. Ou s'il y a un trop long silence, de le couper parce que c'est fatigant à l'écoute. Bon, sinon, je garde vraiment l'entièreté du reportage. Et puis, je veux dire, J'ai tellement des tonnes de reportages qu'aujourd'hui, j'en arrive à faire une émission, de recontacter quelqu'un après 6 mois d'interview, quoi, et lui proposer, ah, bah, tu te rappelles, bah, comment je me rappelle, viens en studio. Et donc, il vient en studio, là, il y a un reportage qui passe, et en même temps, la personne qui est en studio, ça fait 6 mois qu'on a pris le son, on lui, enfin, tu sais, je lui demande s'il pense toujours comme... Comme la dernière fois qu'on s'est vu il y a 6 mois, quoi. Mm-hmm. Il y a le téléphone aussi, où les gens peuvent vraiment dire ce qu'ils pensent sur ce qu'ils viennent d'entendre. Mm-hmm. Parce que ce qui est chouette aussi avec les émissions, c'est que, en tout cas avec les gens, c'est que souvent, ce sont des gens... j'essaie aussi de... C'est pas des émissions de publicité, tu vois, où les gens... C'est vraiment des gens qui parlent de leur boulot, qui sont passionnés, ou de la merde qui se passe ici en Belgique, ou enfin tu vois des choses comme ça très et ça c'est riche, quoi, voilà, ça. Tu vois, l'idée c'est vraiment peut-être je rêve, mais c'est même plus que faire une émission de radio, c'est vraiment c'est pas faire une émission de radio pour dire je fais une émission de radio, c'est plus que ça, c'est rencontrer les autres, je te dis, avec le micro, mais c'est aussi créer un lien, quoi. Créer un lien par la radio. Pourquoi pas rêver que des gens se disent, ben tiens, à tel endroit, il y a moyen de venir s'exprimer sur ce qui m'est arrivé. Il y a un jour, un reportage qui passe, quoi, d'une bonne femme, quoi, qui s'appelle, il faut que je revienne sur son nom, Dominique Scollard, quoi. Et cette dame, en fait, travaille dans les hôpitaux avec des enfants dans le coma. Et elle, son approche... C'est avec son violon, elle joue tout doucement pour ses enfants dans le coma, quoi, tu vois. Et cette nana, pendant 3 quarts d'heure, t'explique. C'est vraiment très beau comme elle explique sa relation à la musique avec les enfants. Et puis après, elle commence un petit peu à partir en parlant des hôpitaux, des milieux hospitaliers, enfin, tu vois. Et alors, elle démonte ça, mais gentiment, pour dire vraiment que. Je vais raccourcir, hein, mais pour dire que. Que les hôpitaux, tu sais, c'est des endroits normalement où t'es là pour te sentir bien, et en fait c'est complètement aseptisé, c'est la mort, quoi, en fait,
c'est moche. Ouais.
Enfin, je raccourcis, mais elle raconte ça vachement bien et tout. Et après ça, il restait, je crois, 5 minutes pour réagir, ou 10, je sais plus, et t'as quelqu'un qui réagit, quoi, et qui dit waouh, ce que vient de dire la dame, ça fait un bien fou. Donc ce bonhomme réagit sur l'interview qu'il a entendue. Il dit, oh, mais comment il y a moyen de la contacter? Il dit, ça fait du bien d'entendre des gens comme ça. Et ce que je trouvais génial, en fait, c'est que ce bonhomme, il écoutait l'émission. Ça lui faisait du bien, ce qu'il venait d'entendre. Moi, ça me faisait du bien que lui réagisse. Et ça faisait une espèce de boule de neige, comme ça, tu vois. Et ça, je trouvais génial. Tu comprends?
Tout à fait.
Et je me suis dit, peut-être qu'il y avait encore un autre qui osait pas...
réagir, mais qui...
C'est ça que j'aime bien, quoi. C'est-à-dire... C'est une émission comme ça où j'essaye de pas m'enfermer sur moi-même, comme ça. C'est une émission où, allez, écoute, c'est pas moi qui parle, hein, c'est pas moi qui fais le reportage, c'est l'autre qui fait le reportage. T'en as un qui écoute, moi je pose des questions et ça fait un lien comme ça, tu vois. L'autre, s'il veut son téléphone, et ben, il peut l'avoir, ils peuvent se rencontrer, ils peuvent peut-être apporter un petit plus, et c'est ça que je trouve génial.
Et que personne ne l'oublie.
On est conscient que Radio Panique n'a pas...
C'est l'anarchie, quoi.
A pas un franc en poche.